Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Vous avez rendez-vous avec cette émission Club de la Presse. Le Togo commémore son 65e anniversaire de l'indépendance ce 27 avril. En prélude, beaucoup d'activités sont organisées par le gouvernement, des inaugurations par-ci, de la pose de premier pied par-là. Et l'opposition, quant à elle, s'inscrit dans une autre dynamique qui appelle à faire du 27 avril 2025 un tremplin pour la reconquête de la souveraineté confisquée. Elle appelle la population à une mobilisation générale de la diaspora togolaise le 26 avril et à un meeting populaire à Kassiné le 27 avril. Ce qui amène le journal Kana Indépendant à titrer ce matin commémoration de l'indépendance en ordre dispersé. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 25 avril 2025 avec Maître Paul de Diapévant, président du parti des FDR. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, bonjour, mon cher ami.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va.
D'accord, merci.
Je garde le sourire, je garde le moral.
Justement, je vous connais toujours étant souriant et ça veut dire que vous gardez le moral, vous gardez aussi espoir, ça comme vous le disiez maintenant hors micro. Ouais. Merci d'avoir accepté. C'était notre invitation, Monsieur le Président. Et pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa va assurer la mise en ligne. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous ceux qui nous suivent partout dans le monde grâce à nos radios partenaires et également à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Vous savez très bien aussi que cette émission est suivie partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiho, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous comprenez que tout le Togo est suivi, enfin sur cette émission Club de la Presse. La presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, du continent africain aussi, du monde entier. Et je vous le disais, c'est avec aussi notre invité du jour, Maître Paul de Diapévant. Mais je serai en compagnie alors de mon confrère Thierry Afanoukou. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Thierry, j'espère que vous allez bien.
En rend grâce à Dieu.
D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation,
merci
Thierry.
Merci pour l'invitation.
D'accord. Maître, avant de commencer cette émission, je ne sais pas si c'est une surprise, mais je vais vous proposer alors d'écouter ceci. Si possible, vous pouvez porter votre casque et pour écouter ceci là, et nous faisons un clin d'œil bien sûr au niveau de la technique.
Ne font ne mia jira nuodo nu ile glea ye kwe banona Ametafu tawe du fiole mio noa ye mi don le ka Etogo vi lan lomea ne font kaba Ne font ne mia jira nuodo nu ile glea ye kwe banona Penonya glowe Togo vi kwe nu E mi kwe nu le jokbe gbaja Vavomo kwe nanuno Penonya glowe Togo vi kwe nu nto Emi penu le jogbe gbaja ya le va me kamere ko kable le vo kotokoli le vo gbogbo to le vo ana le vo emi o pataku e la ya duduma e fofo amani vovo lo nu amane ko na me sia me ne se Amamano togbe kumi la klome e monte a jo gan to ganji mi do ya se se jo da ale ke mi awe to voa la li po vire to go vi o mi fon lo mi fon ne mi ajra nu do enu e legbe aye kwe ba nyo da na nya globe to go vi pe nu nto emi pe nu le jo gbe gbaja nya globe to go vi pe nu emi pe nu le jo gbe gbaja ya neva me kama de ko kable levo ana levo soso to levo gbe to levo emi o patako ila ya duduma e fon fon me ni vovo lo enu amo ne ko na mo si amo ne selu amo ma no to gbe ku mi la klome e mo de ajo ge to ganji mi do ya so se jo hoda le ke mi awe to vo ala lia po vire o to go vi o mi fon lo.
Voilà, merci beaucoup à Kiki Sosa hein, qui nous a donné cet avant-goût alors de cette chanson. Maître, c'est vrai que je circule un peu sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé cette chanson, mais je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans.
bien sûr, j'en suis l'auteur. J'en suis l'auteur. Et vous savez que en dehors de ce que Dieu m'a donné comme profession, j'ai eu également la bénédiction de savoir chanter. Et j'adore chanter. Je dis, même si je ne suis pas avocat, je serai normalement un chanteur, un compositeur. Mais ce n'est pas ça. Je serai un artiste, forcément, parce que je l'ai dans le sang. Je n'ai pas seulement le temps de m'y consacrer, mais ça viendra. Ça viendra. C'est pour ça que l'inspiration... Et je voudrais être honnête. Ce que j'ai chanté là, comme je côtoie des chanteurs, il y a un ancien chanteur, Monsieur Clousset, il est un vrai chanteur, lui est confirmé. Donc c'est avec lui que j'ai frotté pendant longtemps. Donc c'est cette affaire, ce que nous chantons là, je l'ai entendu déjà quelque part chez lui. Mais je l'ai repris pour que les Togolais puissent écouter le fond de la pensée, parce que c'est philosophique. On dit souvent qu'il n'y a pas de philosophe chez nous, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'écrit. Mais il y a des gens, de grands penseurs chez nous. Alors, donc cette chanson-là, c'est pour galvaniser, c'est pour réveiller les Togolais, pour leur dire que mais notre affaire à nous, c'est nous-mêmes. C'est chaque Togolais qui doit en prendre conscience pour savoir quelle est ma part, qu'est-ce que je fais là-dedans. Et vous parlez tout à l'heure, je sais qu'on y reviendra tout à l'heure sur l'indépendance de notre pays et tout ça, mais c'est des gens qui ont décidé de faire de notre pays un pays indépendant. Alors, nous, quel est nous qui vivons aujourd'hui dans un pays qui est aujourd'hui dans l'état que nous savons, qu'est-ce que nous faisons pour remettre les choses à l'endroit, puisque tout est à l'envers.
Maître, le constat que j'ai fait, c'est que vous êtes adonné dans cette chanson aux traditions, ou à la tradition, j'allais dire. Est-ce que ça veut dire que la tradition a vraiment d'importance chez vous?
Mais moi, je vis dans la tradition. Je suis collé à la tradition, parce que c'est ma source d'inspiration, c'est la tradition. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous viennent de l'extérieur, de l'Occident et autres. Mais fondamentalement, devons nous consacrer d'abord à nous-mêmes, à notre tradition. D'où nous venons. C'est nous qui devons mettre tout ça là en valeur pour que les gens comprennent ce que nous sommes. Si nous laissons tomber tout ça là et nous adonnons seulement à ce que l'extérieur nous apporte, nous allons nous perdre même notre identité. Alors, pour ne pas perdre son identité, il faut que la génération, notre génération, fasse quelque chose pour retourner à la tradition, comprendre la tradition, retransmettre à ceux qui vont venir ce que nous pouvons puiser de cette tradition.
Mais maître, est-ce que vous n'avez pas le constat que cette tradition en question aujourd'hui est en voie de disparition?
Oui, c'est ce que je dis et ce que je déplore. Et c'est ce que je déplore parce que on peut pas vivre en étant totalement déconnecté de sa tradition. Lorsque tu es déconnecté de ta tradition, de ton milieu de référence, alors tu deviens un zombie, tu deviens un errant, voilà. Donc quel que soit ce qui nous avons aujourd'hui, parce que les gens font parfois l'amalgame, ben nous sommes des croyants, nous pratiquons nos religions. Je suis catholique, je vais à la messe, celui-ci il est musulman, il va prier, etc., etc. Mais il y a quelque chose que nous devons fondamentalement ne pas perdre de vue, c'est que nous venons de quelque part. nous venons de quelque part. Les gens croient que bon, la religion fait en sorte que nous sommes coupés de notre milieu traditionnel pour être quelque chose dans l'air. Ce n'est pas ça, en réalité, ce que Dieu veut de nous. Quand vous prenez la religion, même depuis les temps immémoriaux, tous ceux qui ont... Ils ont pratiqué leur tradition, tout en croyant en Jésus et tout ça. Ils ont cru à leur tradition. Parce que si vous lisez la Bible, vous découvrirez beaucoup de choses. Donc, se comporter aujourd'hui comme nous sommes à la mode. La mode veut que ceci, etc. Il y a un drame qui se passe même dans les maisons. On convoque les réunions de famille pour venir juste réfléchir. Les gens disent, non, moi, ma religion m'interdit de toucher et tout ça. La famille et tout ça, là, c'est Satan. La famille, c'est Satan. La famille dont tu es né, là, d'où tu viens, là, c'est Satan. Parce qu'on t'a invité, viens réfléchir avec les autres membres de la famille. Non, ça, on est en train de perdre le nord. Et ceux qui sont les responsables religieux doivent réorienter ce débat-là. Mais il y a religion et tradition. On peut vivre une religion, mais être également dans la tradition, savoir comment combiner les deux. On ne te dit pas d'aller t'agenouiller devant le lait, le machin, mais il y a un fond qui nous appartient et que nous devons sauvegarder. Sinon, nous sommes perdus.
D'accord.
Oui, maître, à vous écouter, c'est vrai, vous vivez la tradition, vous êtes dans la tradition, mais à écouter la chanson, le politique prend le dessus. Et ce message-là que vous portez, c'est pour éveiller la conscience des Togolais à réclamer leur part, si je peux m'exprimer ainsi, à la gouvernance de ce pays.
Oui, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays, que vous soyez politique ou pas, que vous intéressez à la politique ou pas, il y a au moins une chose qui est fondamentale. Vous devez obligatoirement vous intéresser à la gouvernance de votre pays. La manière dont le pays est gouverné, c'est ça qui fait que demain, ton fils peut aller dans une bonne école, peut se soigner, toi-même tu peux te soigner correctement, tu peux avoir du boulot, tu peux avoir ceci, etc. Mais si le pays est mal gouverné, tout ce que tu attends, tout ce que un régime normal peut donner à un citoyen, mais tu ne l'as pas. Alors, si tu es à l'écart et tu dis non, tout ça là ne m'intéresse pas, mais alors en fin de compte, pourquoi tu vas te plaindre? Si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas ceci, et tu dis non, tout ça là ne m'intéresse pas, mais pourquoi tu vas te plaindre? C'est pour ça que nous éveillons les Togolais. Nous ne leur demandons pas de rentrer dans des partis politiques pour aller faire de la politique et tout ça pour une politique réellement au sens pur du terme. Mais au moins s'intéresser à la manière dont ce pays fonctionne aujourd'hui. Et tout le monde, quand vous prenez les Togolais individuellement aujourd'hui, quelle que soit leur appartenance politique, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, chacun individuellement dans sa maison dit « ça ne va pas ». Chacun se plaint. Chacun gémit dans sa maison. Si chacun se plaît, chacun gémit, ça veut dire que la gouvernance est mauvaise. Alors qu'est-ce que nous faisons? Si la chose est mauvaise, que vous ne vous réveillez pas pour réclamer ce que vous devez réclamer, pour ceux qui vous dirigent, comprennent que vous êtes dans la souffrance et qu'ils vous reviennent, qu'ils prennent en charge le minimum pour les citoyens, qu'est-ce que nous allons faire dans ce
cas-là? Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, selon la chanson toujours, que les Togolais sont dans un profond sommeil alors que la gouvernance n'est pas bonne et ils ne disent rien?
Oui, mais c'est ça qui est un peu paradoxal. Un peu paradoxal parce que je compare souvent le Togo à d'autres pays. Je ne veux pas dire que les Togolais sont totalement insensibles à tout. Il y a des moments où ils se réveillent, ils s'organisent. Mais ils attendent toujours que quelqu'un les organise. Ou un événement, surtout politique, les sortent de leur léthargie. Or, le quotidien que nous vivons chaque jour doit nous interpeller. Et quand je compare, il y a des endroits où, lorsqu'on augmente le prix de ceci, le prix du pain, le prix de l'essence, le prix des péages, le prix de ceci, mais les citoyens s'organisent pour dire non. Nous n'attendons pas un parti politique pour nous donner un mot d'ordre, mais ça là, nous ne sommes pas d'accord. Et que les gouvernants comprennent que nous ne sommes pas d'accord. C'est comme ça qu'un citoyen doit fonctionner, comme un groupe de citoyens doit fonctionner pour que le pays avance, pour interpeller permanemment les gouvernants. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui, nous savons que nous avons des problèmes. Vous prenez le problème de la santé, c'est catastrophe. Et école, c'est catastrophe. Problème d'emploi, c'est catastrophe. Mais il y a catastrophe partout. Dans nos rues, la circulation, le minimum que chacun doit avoir, à Lomé même, ici, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. toute la semaine, ils n'ont pas d'eau. Comment on peut imaginer qu'on gouverne ce pays bientôt 65 ans qu'on a l'indépendance, qu'on n'ait pas de l'eau potable à Lomé? Alors, si on n'en a pas à Lomé, qu'est-ce que vous allez dire de l'intérieur des contrées reculées? Donc, il y a problème. Alors, donc, si les citoyens ne comprennent pas que c'est à eux de faire en sorte que les gouvernants puissent s'intéresser à leurs problèmes, alors ça devient problème.
C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes croyant, vous êtes catholique, pratiquant aussi. C'est vrai, il y a cette semaine, une mauvaise nouvelle quand même que nous avons écoutée, c'était depuis le lundi où le pape, enfin vous savez que ça concerne le décès alors du pape François. Et comment vous avez accueilli l'information?
Oui, mais c'est-à-dire que c'est une nouvelle qui... moi, personnellement, m'a totalement déboussolé. Parce que ce pape, il y a plusieurs papes, hein, chacun marque son temps d'une certaine manière. Mais lui, particulièrement, il s'est intéressé aux problèmes sociaux. Le quotidien des individus, la manière dont les gens vivent, de la misère qui est rampante, etc., les gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs, la manière dont ils sont traités ailleurs et tout ça, mais ça le préoccupe et il intervient souvent sur ces points. Alors, lorsque on a appris qu'il a été malade, bon, nous avons prié, et lorsqu'il est revenu, nous l'avons vu pendant la période de Pâques, aller prononcer dans la foule, prendre ce bain de foule, nous avons cru qu'il est totalement revenu à la vie. Mais le voir la veille et puis le lendemain apprendre qu'il est parti aussi tranquillement, ça a provoqué quand même un choc. Mais nous disons oui, mais ben, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et tout le monde en doit en prendre conscience. Ceux qui croient qu'aujourd'hui, ils sont immortels et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que la mort n'a pas de prix sur eux, ils se trompent. Chacun doit prendre conscience. Quel que soit ce que tu fais, que tu maltraites les gens aujourd'hui, que tu les prennes en dédain, tu les multiplies par zéro, tôt ou tard, chacun partira. Les richesses que tu amasses, des milliards que tu mets dans ton trou, je ne sais pas dans où, dans les paradis fiscaux, tout ça, un jour tu vas partir, tu vas mourir. La mort est une évidence, chacun doit en prendre conscience. Et nous sommes venus ici, tu feras un temps et tu partiras. Peu importe les biens que tu as, peu importe tout ce que tu ramasses comme bien, tu partiras. Et parfois même tu partiras dans le néant, les gens t'oublieront. Tu as beau amasser des milliards, mais tu partiras dans le déshonneur. Totalement dans le déshonneur. Celui-ci, au moins ce pape, mais nous croyons que lui, il est parti avec un héritage qu'il a laissé pour l'humanité.
Un héritage qu'il a laissé pour l'humanité, c'est vrai, depuis 2013, et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux causes vulnérables et que, à un moment donné, même d'ailleurs, des gens parlent alors de pape des pauvres. Oui. Et aussi au-delà de tout, on a vu quand même avec cette déclaration, hein, dans certains pays, et même à l'endroit alors du continent africain, il parlait même de la RDC quand il disait ôtez vos mains alors de la RDC et de l'Afrique. Tout entière. Oui. Il disait même d'ailleurs que l'Afrique n'est pas une mine à exploiter. Oui. Et finalement, on a connu quand même un pape très politique, c'est ça?
Très, très politique. Non, de toute manière, le Vatican est le plus grand lieu de la politique. C'est une petite structure, sur le plan international, le Vatican est incontournable. Ils se sont intéressés depuis la nuit des temps à la politique internationale. Alors, il a compris que notre misère en Afrique vient peut-être de nous-mêmes parfois, mais c'est l'Occident, ceux qui nous ont exploités, c'est eux qui nous ont mis dans cet état de pauvreté. Parce que nous avons des richesses ici, chacun s'y intéresse, et pour pouvoir mieux nous exploiter, ils ont des stratégies, ils ont des plans. Et parfois, certains croient que, bon, c'est en maintenant des dirigeants qui, selon leur dévotion, qui va faire leur affaire. Donc, ils mettent des stratégies, c'est pour ça que peut-être qu'on en parlera encore, que ceux qui ne leur plaisent pas, ceux qui ne le font pas leur politique à eux, ou qui sont censés les aider à mieux nous exploiter, mais ils les dégomment et ils les assassinent. C'est comme ça que Gilles-Christ Olympio a été assassiné par le colon français, parce que a été assassiné parce que le colon, les idées merveilleuses qu'il avait pour le Togo déplaisaient aux colons, aux Français, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de le supprimer. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça s'est perpétué. Lui, il est mort, mais dans la plupart des continents, la politique française et autres est axée essentiellement sur la même mise. C'est-à-dire qu'on a dit on est indépendant, mais on continue de nous maintenir dans un état de dépendance pour pouvoir mieux nous exploiter. Le pape a compris tout cela. C'est pour ça que souvent, de temps en temps, il intervient pour demander à ceux-là de laisser un peu le continent africain. Parce qu'ils ont besoin de se développer aussi. Voilà.
Mais maître, est-ce que vous avez l'impression qu'il a été écouté?
Ceux qui font du mal, ils ont du mal à écouter. C'est-à-dire que les gens agissent souvent dans leurs intérêts, et tous les bruits que vous faites pour les arrêter dans leurs dérives, ils ne les écoutent pas. À moins qu'une force vienne contrebalancer ce qu'ils font. Sinon, si rien n'est fait, c'est seulement des exhortations, des commentaires, parfois ils sont indifférents. Ils écoutent, hein, je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas, mais ils ne font pas normalement ce qu'ils doivent faire pour arrêter justement la dérive. Certains ont compris aujourd'hui. Le conflit aujourd'hui qui est au Congo, il a parlé souvent du Congo, entre le Rwanda et la RDC, mais c'est entre nous-mêmes, c'est une question d'exploitation de richesses et tout ça. Et donc, si nous-mêmes en Afrique, la misère que nous avons aujourd'hui, nous allons accentuer cette misère-là par le biais de puissance internationale, nous faisons du tort. Nous nous faisons vraiment, vraiment...
Maître, est-ce que ce n'est pas un ordre mondial que nous, les humains, même, nous avons créé, ce que Thomas Hobbes a appelé même d'ailleurs loup pour l'homme, c'est-à-dire finalement, c'est comme ça que le monde fonctionne.
Oui, je suis entièrement d'accord. C'est le monde, depuis le début, a fonctionné comme une jungle. Hein. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont les plus forts qui avalent les plus faibles. Et c'est pour ça que chacun doit, en réalité, s'organiser à sa manière. Et le drame, c'est que l'Occident a toujours considéré l'Afrique comme une proie facile. Et alors, pour ne pas être toujours une proie facile, nous devons d'abord nous organiser à l'intérieur de nos pays et nous organiser au niveau du continent et devenir une puissance pour pouvoir leur résister. Voilà. C'est Thomas Sankara qui disait un jour à l'ONU que moi, les dettes là qu'on me demande de payer, moi je ne peux pas. Mais si je leur annonce seul que je ne peux pas, peut-être qu'au prochain sommet, je ne serai plus là. Nous devons être ensemble, solidaires, pour leur dire non. S'il n'y a pas cette solidarité africaine, nous serons toujours la proie de ces gens-là.
D'accord. Maître, ouais. C'est vrai que le pape s'est toujours préoccupé, en tout cas durant tout son règne, de la pauvreté, de l'injustice et des souffrances sur le continent. Ce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que les dirigeants africains, nos dirigeants, se préoccupent véritablement de cette souffrance-là de leur population?
Ça, c'est une très, très belle question que vous posez. Parce que si les dirigeants se préoccupaient du sort de leur population, on aurait moins d'influence de l'Occident. Parce qu'à l'intérieur, ils se seraient comportés en solidarité avec leurs concitoyens pour donner une orientation au pays, donner une vision au pays. Et lorsque vous avez une vision claire, dirigeant et gouvernant et gouverné, ben, le pays devient plus fort. Mais c'est parce que nous, aujourd'hui, en début d'émission, je vous ai dit toutes les misères que nous avons dans ce pays. J'ai cité les cas un à un. Qui me démentirait aujourd'hui que nous avons des problèmes dans tous ces domaines-là? Si les dirigeants se préoccupaient véritablement du sort de nos concitoyens ici, nous ne parlons pas de la manière dont ils ont accédé au pouvoir. Ça, c'est une autre dimension. Elle est mauvaise, celle-là aussi. Mais au moins, au minimum, lorsque vous captez le pouvoir comme ça, pas la brutalité, mais au moins, faites au moins ce que vous avez à faire pour les populations. C'est le minimum que vous devez faire. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir de manière injuste et puis vous asseoir au pouvoir et faire, selon votre volonté, en tournant le dos aux populations. On ne peut pas gouverner un pays en tournant le dos aux populations. Et c'est généralement ce que les gens font ici. Les élections, tout ce qu'ils organisent pour à la va-vite parfois, c'est juste pour le décor. Et ils ne comprennent pas que véritablement leur sort dépend véritablement des populations. Sinon, ils les respecteraient et mieux.
Alors, ce n'est pas parce que aujourd'hui beaucoup ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle et ils sont désenchantés et c'est ça qui fait qu'ils sont dans le sommeil profond dont vous avez fait cas dans votre chanson.
Mais oui, mais je crois que vous avez raison, mais c'est une mauvaise manière de prendre le problème. Lorsque quelqu'un vous pose problème, ne règle pas vos difficultés. Et vous décidez d'entrer en léthargie. Ce n'est pas votre léthargie qui l'inciterait demain à dire « Ah oui, mais comme j'ai fait, il est mécontent, il est allé se cacher, donc désormais je vais m'occuper de ce problème. » Dans tous les pays du monde, ce n'est que lorsque le citoyen se réveille pour revendiquer ses droits que le dirigeant s'intéresse à lui. Mais vous dormez dans votre maison, vous croisez les bras, ils ne feront absolument rien. Votre sort deviendra encore plus dramatique. Que au moment où vous avez décidé d'aller vous cacher quelque part et être dans votre sommeil. On doit sortir du sommeil, interpeller les gouvernants. Parce que la richesse nationale que nous avons, c'est notre richesse à nous. C'est la richesse du pays. Ceux qui gouvernent aujourd'hui n'ont pas de richesse personnelle. Ils n'en ont pas. C'est notre bien à nous tous. De quel droit eux, ils vont s'en emparer et au détriment des autres? De quel droit? Ils se comportent aujourd'hui comme ce qu'on possède aujourd'hui, c'est leur patrimoine. Et lorsqu'ils vont dans un village pour aller donner de l'électricité qui est un droit, l'eau qui est un droit pour chaque citoyen, lorsqu'ils vont quelque part se réveiller enfin pour aller en donner dans un village, et ils disent oh « oui, mais vous devez être reconnaissant, vous devez descendre dans la rue, vous applaudir, parce que c'est du bien qu'on ait. » Pas la magnanimité de quelqu'un qu'on vous a apporté. Quelle magnanimité? L'électricité et l'eau qu'on a donné, c'est avec l'argent de qui? C'est avec l'argent de notre pays, c'est notre patrimoine. Donc moi, je crois que il y a un type de citoyen nouveau qu'on doit réussir à créer, parce que d'autres pays l'ont. Les gens se sont réveillés dans d'autres pays et sont véritablement préoccupés par leurs intérêts, par leur mieux-être. Donc, si nous ne le faisons pas ici, la situation ne changera pas.
Maître, nous allons nous intéresser maintenant à l'indépendance du Togo. J'en parlais dans mon mot introductif. Et c'est vrai, dans quelques heures, nous allons célébrer, c'est bien sûr le dimanche 27 avril, nous allons célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et déjà, quand on prend l'indépendance, puis c'est 65 ans de cela, Maître, quel souvenir vous avez alors de cette indépendance?
Oui, quel souvenir j'ai de l'indépendance. Le Togo a été indépendant, a proclamé son indépendance en 1960 au moment où moi je n'ai que 5 ans. Je n'ai que 5 ans lorsque l'indépendance a été proclamée. Bon, on était des gamins au moment où tout cela se passait. Mais ce que j'ai au moins gardé, retenu dans mes souvenirs d'enfance, c'est qu'à cette période déjà, je voyais nos pères. Et je battais pour l'indépendance. Moi, je me rappelle, il y a parfois nos mamans qui pleurent, nos pères, le père est parti la nuit, et ils vont aller se cacher dans un champ, parce que c'est dans les champs, parfois, ils font leurs réunions, c'est des réunions nocturnes, et ils se rassemblent là-bas dans la nuit, ils réveillent, et le matin, ils reviennent à la maison, personne ne sait d'où ils viennent. Mais nos mamans, eux, je m'en suis né d'un père polygame, nos mamans, quand ils parlent la nuit comme ça, ben, elles se concertent. Bon, certains sont très, très inquiets parce que à la fin, on a vu qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a même des gens qui ont été tués chez nous à Voga à cause de ces faits de l'indépendance. Donc, les gens sont battus véritablement pour que nous sortions des mains du colon, pour que nous devenions nous-mêmes indépendants, pour prendre notre sort en charge, pour prendre notre destin en charge. Mais donc ça veut dire que c'est volontairement. Tous ceux qui l'ont fait, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils attendaient quelque chose de la nation. Mon père, lui, c'est quoi? C'est un bijoutier. C'est un bijoutier, c'est un cultivateur meunier. Mais au moment où il le faisait, il n'espérait pas qu'on allait le nommer dans telle société, à la tête de telle structure étatique. Non. Lui, il avait une préoccupation. C'est une préoccupation patriotique. Il faut que nous sortions des mains, justement, de ces colons-là. C'est la plupart de ceux qui l'ont fait chez nous, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Alors, ils ont eu l'indépendance pour nous. Et nous étions contents lorsque l'indépendance a été proclamée. Bon, nous, on était gamins quand on l'a annoncé. Mais progressivement, quelques temps après, 3 ans après, on a appris également que le père de l'indépendance a été assassiné. On n'a pas compris comment les gens qui l'ont fait ont réussi aussi facilement leur coup. Et puis, depuis, progressivement, au moment où je grandissais, bon, on est tombé dans ce que nous connaissons aujourd'hui, le parti unique. Là, on nous dit tout le monde doit se taire, on ne doit pas parler. Les formules sont sorties à l'époque, on dit les millions des oreilles et tout ça. Bon, et progressivement. Et on a vécu ça, on a subi ce terrorisme d'État jusqu'dans les années 90 où finalement les bouleversements sont arrivés. Mais avant les 90, là, moi je suis devenu déjà avocat. Je m'intéressais beaucoup à la politique, puisque vous savez, j'ai été formé par Maître Agouibo. Déjà à son époque, à son cabinet, comme il s'intéressait à la politique, ça m'a entraîné progressivement à m'intéresser à la politique. Donc, c'est lui qui a permis que je sois avocat. Et puis, c'est à son ombre que finalement, je me suis forgé cette mentalité de politicien que je suis devenu aujourd'hui. Nous pouvons dire simplement que le rêve de nos pères, le rêve que nos pères avaient nourri pour l'indépendance, aujourd'hui, si on les réveillait, ils vont dire non, c'est la catastrophe.
Maître, est-ce que ça veut dire que rien n'a bougé, maître?
Je ne dirais pas que rien n'a bougé, mais on avait voulu rêver grand. Ils rêvaient grand. Parce qu'ils savaient que l'indépendance allait donner quelque chose de plus grand, que les citoyens indépendants allaient devenir plus heureux, et allaient avoir du boulot, allaient avoir un avenir plus prometteur. Mais ils n'ont jamais pensé que on est sorti de la main du colon et que nous sommes entrés dans la main de notre colon, un colon national ou des colons nationaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de la main de ceux qui nous terrorisent venant de l'Occident pour entrer dans la main de nos propres frères qui nous maintiennent dans cet état indescriptible.
Oui, maître, vous avez parlé tantôt de patriotisme. C'est quand, 65 ans après, est-ce que ce patriotisme-là, cette détermination, cette fierté anime encore les Togolais pour faire véritablement de ce Togo l'or de l'humanité qu'avaient rêvé nos aïeux?
Oui, bon, il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui ont encore la fibre en eux, qui ont ce patriotisme en eux, qui brûle en eux. C'est vrai que la manière dont les choses sont passées entre-temps, c'est vrai, les Togolais, depuis les années 90, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils pouvaient faire pour sortir de la dictature, mais il y a eu une répression. Et reconnaissez-le quand même, une répression terrible. Des gens ont été mutilés, des gens sont morts, il y a des personnes qui ont disparu, qu'on n'a pas retrouvées depuis. Si on fait le bilan aujourd'hui du dégât humain, que la volonté de rétablir les choses a causé, mais je ne sais pas combien de morts on va receler, mais il faut aussi s'y intéresser. L'histoire de notre pays.
La CIVJ a fait un travail là-dessus.
Oui, mais bon, ce n'est pas complet, ce n'est pas total. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans l'anonymat, qu'on n'a pas retrouvé, que la CIVJ n'a pas répertorié. Mais il y a eu quand même un dégât énorme. Alors, ce dégât énorme, en termes de perte d'emploi, en termes de mutilation, en termes de gens qui ont été emprisonnés, des gens qui sont morts, disparus et tout ça, mais c'est vrai que ça a laissé quand même des traces. Mais ça n'a pas été la flamme, justement, la fibre qui doit être à chaque Togolais pour...
Mais si cette fibre-là existe toujours, pourquoi les gens sont dans un sommeil profond?
Non, c'est des périodes qu'un peuple vit toujours. C'est-à-dire que ça vient, mais Il suffit de peu de choses pour les remettre debout. Moi, le meeting, on a vient tout à l'heure, le meeting de Kassimé la dernière fois, au moment où nous-mêmes on lançait cet événement-là, on ne pensait pas qu'il va y avoir autant de monde à Kassimé. Lorsque vous sondez un peu, les gens disent « Oh, on est fatigué » et tout ça. Et bon, vous aurez pu vous dire « Oui, mais même si on demande aux gens de sortir pour venir là-bas, ils ne vont pas y aller. » Mais il a suffi seulement de 2, 3, 4 jours, les gens sont informés, mais ça a donné ce que ça a donné. Et puis, c'est comme ça que ça part. Ça part généralement comme ça. Dès le début, il y a un peu de monde, mais progressivement, vous allez voir. Mais vous faites un sondage aujourd'hui au Togo. Vous allez voir que le réveil a commencé à prendre. Les Togolais ont commencé par prendre conscience de l'état de délabrement de notre pays et la situation que chacun vit. Et que les choses ne doivent pas continuer de cette manière-là. Ça va venir.
Vous n'êtes pas aussi comptable de la situation actuelle, même si vous n'êtes pas les gouvernants.
Comptable en quoi? Moi, je ne sais pas. Non, je sais que vous me ramenez à cette guerre qui dit oui, l'opposition a fait ceci, l'opposition a fait ça. Oui, dans tous les pays du monde, une opposition commet toujours des erreurs, mais ceux qui gouvernent commettent des erreurs, l'opposition peut commettre aussi des erreurs, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'attarder, on ne peut pas regarder tout le temps dans le rétroviseur en disant, oui, il y a une semaine, il y a un an, vous avez fait ceci. Non, mais l'opposition qui est en train de se battre aujourd'hui, ensemble avec les populations, c'est pourquoi? C'est pour mieux être. Et c'est pour ça que nous disons ce que nous sommes en train de faire, nous avons voulu le mettre d'abord sous la responsabilité de chaque citoyen. Ce n'est pas un parti politique qui s'est rassemblé pour dire « On va vous rassembler, demain vous allez voter pour nous ». Ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. On demande aux Togolais de prendre conscience eux-mêmes que c'est à eux, chaque Togolais, qui doit faire en sorte que notre sort devienne meilleur demain. Donc cette lutte citoyenne-là, c'est une lutte qui interpelle chacun. Et ceux qui dorment, ils doivent se réveiller pour reprendre le flambeau de la lutte.
Oui, maître, c'est vrai que concernant surtout la célébration de cette indépendance, ce n'est pas la première fois, mais c'est que la ferveur qui doit être autour de la chose, on ne la remarque pas. Il y a même le journal Le Canard Indépendant qui titre bien sûr sur le sujet commémoration de l'indépendance, un ordre dispersé. Et j'en parlais aussi dans mes mots introductifs, il y a le gouvernement qui organise des activités, il y a l'opposition qui parle également de certaines activités, qui parle plutôt alors de manifestations pour la libération ou pour se libérer alors de la souveraineté confisquée. Alors, finalement, qu'est-ce qui est à la base alors de ce manque de ferveur autour de la chose commune que nous avons, c'est-à-dire le Togo?
Oui, mais la situation, ça ne doit pas vous étonner. Ceux qui vous dirigent, si vous dirigent mal, Ils ne vous respectent pas. Parce qu'aujourd'hui, disons la vérité, ceux qui nous gouvernent ne respectent personne. Ils ne respectent aucun Togolais. Ils font selon leur volonté. Si ils respectaient seulement les Togolais, en sachant que c'est le peuple togolais qui est détenteur du pouvoir souverain, mais il y a un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ne peuvent pas nous balancer une constitution comme ça, la figure, sans consultation aucune des populations. Même les plus grands dictateurs font quand même semblant d'organiser des référendums pour dire oui, population. Même s'ils savent qu'au cours de ce référendum, ils vont tricher, ils vont voler sur les résultats, mais ils l'organisent quand même. Et ils font semblant d'organiser quand même ce référendum en disant oui, on a consulté les populations, voilà les populations, voilà les résultats de ce que les populations ont dit. Mais si on nous balance quelque chose comme ça, la figure, sans aucune consultation. Et c'est après qu'on nous dit, ah oui, lorsque les gens ont commencé à contester, qu'ils ont organisé des trucs à travers le pays pour aller expliquer aux populations finalement le sens de la constitution qu'ils ont adoptée en catimini dans des conditions aussi dramatiques, ça veut dire qu'ils ne respectent personne. Ils ne respectent pas les gens. Ils nous prennent comme des moins que rien. Des gouvernants qui se comportent comme ça avec leur population ne méritent pas que quelqu'un les respecte.
Mais maître, après tout, c'est notre indépendance et que nous devons normalement
nous mettre autour de qu'est-ce ça. Qu'est-ce qu'on doit faire quand les gens ne vous respectent pas, ils disent indépendance. Quel programme vous allez aller faire avec eux? Vous allez faire quoi avec eux? Ils vont vous appeler à défiler ou à faire. dans les préfectures, on a dit il va avoir défilé. Forces de sécurité ou machin, les populations vont défiler. C'est à ça seulement qu'on reconnaît notre indépendance. Et c'est ça le programme. Pourquoi?
Moi, je suis chef de parti. Il y a des résistances populaires aussi.
Moi, je suis chef de parti. Non, mais laissez-moi dire.
Oui, qu'est-ce que vous aurez?
Je suis chef de parti. Dans le prolongement de ce que je vous dis, qu'ils ne respectent personne, mais est-ce que moi, j'ai, jusqu'à au moment où je vous parle là, qui m'a fait part d'un programme de quoi qu'on fait ceci, ou qui a consulté pour dire oui, on va faire tel programme? Personne. Personne. Alors maintenant, les gens, ils vont se lever un bon matin, parce que ceux qui nous gouvernent mal, ils ont voulu aller festoyer, ils vont aller se réjouir, ils vont boire du vin, ils vont boire du champagne. Alors c'est en ce moment qu'on m'invite, alors moi je me joins à eux pour aller faire quoi? Qu'est-ce que tu allais faire?
Ouais, maître, si on vous invitait, ça veut dire que vous n'irez pas.
M'inviter. Il y a même des invitations qui constituent des insultes. Il y a les conditions dans lesquelles on t'invite. On attend la veille. Il est arrivé plusieurs fois. Moi, j'étais pour certaines manifestations la veille. On vous balance un truc comme ça. Parce que vous venez ou que vous ne venez pas, c'est pas leur affaire. Alors, c'est du mépris. Quand on vous méprise de cette manière-là, mais vous n'avez pas besoin de donner de l'importance à celui qui vous envoie l'invitation. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas correct ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays. Ce n'est pas normal. Et ils doivent revenir au minimum à un peu plus de respect pour les populations. Ils doivent mieux respecter les populations.
Oui, alors, maître, moi je reviens sur l'un de vos développements concernant la nouvelle constitution. Est-ce parce qu'elle n'est pas passée par référendum que vous la rejetez, ou encore parce qu'elle porte sur un changement politique?
Non, mais ce qu'ils ont fait, ça veut dire que dans la forme et dans le fond, tout ça là, c'est de la salade. C'est mauvais, 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 mauvais. La forme, elle est mauvaise. Je l'ai dit, je l'ai développé en quelques mots tout à l'heure. Mais lorsque vous prenez le fond, c'est totalement mauvais. Parce que ils ont taillé ce truc-là parce qu'ils veulent que quelqu'un, un individu, devienne le chef d'État à vie.
Mais un régime parlementaire, ça existe aussi ailleurs.
Laissez-moi tomber cette affaire-là. Ne faites pas l'affront à ceux qui pratiquent le régime parlementaire. Ce que nous faisons dans notre pays, ce n'est pas un régime parlementaire.
C'est quoi alors?
Non, c'est de la salade. C'est une vraie salade. Ça ne répond à rien du tout. Prenez la constitution, lisez, là. Ça ne répond à rien du tout. C'est des trucs qu'ils ont pris de gauche à droite. Ils ont pris une partie ici, régime parlementaire. Ils l'ont adapté ici pour que puis finalement, le bonhomme qui veut qu'on lui fasse ça comme ça puisse avoir sa part. C'est fini. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas un régime parlementaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas sérieux. Mais le régime parlementaire, je prends juste un exemple. Mais dans un régime parlementaire, chez nous ici, sur notre régime ici, il y a un président de la République, dit-on. Alors, si vous prenez la Constitution, vous dites que pour élire ce président de la République, il faut la réunion des deux assemblées. Le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils doivent se réunir. On doit avoir des candidats. Et on doit procéder aux votes. Et on a même précisé le quorum pour. Mais celui qui est chef du... Et celui-là, lui, il n'a aucune prérogative. Vous prenez le représentant de la République, vous lisez ses prérogatives.
Celui qui a plein pouvoir n'est pas élu.
Voilà, il dit, le président de la République, tout ce qu'on lui donne, on dit, il accrédite les ambassadeurs. Il reçoit et accueille formellement les ambassadeurs. Il reçoit les noms des deux tantôt présidents de... C'est tout ce qu'on lui donne. Et puis, il dessine les décorations de la République. C'est ça le rôle du président de la République. C'est un inaugurateur de chrysanthème. Il est là, juste pour décorer. Maintenant, celui qui a tous les pouvoirs, lui, plein pouvoir, il préside le conseil des ministres, est le chef de suprême des armées, dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement et les forces armées étant, détermine et conduit la politique de la nation, définit la politique étrangère, assure l'exécution des lois, etc., donne nomme aux emplois civils et militaires, accorde grâce et tout ça. Celui à qui on a mis tout ce lot-là, on vous dit, lui, il n'est pas un élu. C'est-à-dire que lui, il attend tranquillement dans sa maison. On va à une assemblée, une élection législative, dès que son parti, puisque le président d'un parti, dès que le président, le parti a la majorité, Lui, là, il n'y a pas d'élection. On ne réunit même pas
les deux chambres.
Les deux chambres. L'Assemblée nationale prend acte du nom qu'on lui envoie. Et on nous a même dit, moi j'ai écouté des ministres dire déjà que, bon, on connaît le nom de... On vous a déjà dit que le président, mon cher, de celui qui va être...
Puisqu'on connaît le parti...
Non, c'est de n'importe quoi. Ce qu'on est en train de nous faire là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas digne de nous. Ce n'est pas digne du Togo. Ce qu'on est en tête, ce dans quoi on est en tête de nous entraîner, c'est pas dit. Et je dis.
Mais c'est un test sur lequel des juristes et autres ont travaillé.
Mon œil. Mais vous parlez de juristes. Ce que nous avons compris aujourd'hui au Togo, c'est que chacun fonctionne en fonction au regard de ses intérêts. Un vrai juriste, normalement constitué, tout chaque Togolais normalement constitué. Doit pouvoir dire que ce qu'on est en train de nous faire là n'est pas bien. Et les gens le disent dans leur maison. Mais ceux qui viennent sur les antennes défendent l'indéfendable, ils savent pourquoi ils le font. C'est pour leur bien matériel. C'est pour manger. Mais il n'y a rien de plus que ça. Donc ça dit que tout ce qu'on est en train de concocter, les grandes défenses qu'on nous fait sur les radios, partout et tout ça, on circule sur le territoire pour aller défendre ce qui est mauvais. Mais c'est juste pour exister. C'est pour avoir quelques prébendes, c'est tout.
Mais maître, c'est vrai que depuis un temps, depuis l'introduction même d'ailleurs de cette nouvelle constitution, vous avez toujours, vous êtes dressé hein, contre cela. C'est ce qui fait même d'ailleurs que, bien que vous êtes élu aux dernières législatives, vous avez refusé même d'ailleurs de siéger à l'Assemblée nationale. Oui. Et vous êtes toujours dans la contestation. Tout récemment, vous avez créé même un cadre avec le parti ANC et des organisations de la société civile. Maître, et vous demandez toujours le retrait simple et pur alors de cette nouvelle constitution, mais en voyant le processus aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin pour le retrait justement que vous demandez?
Aller trop loin, c'est quoi trop loin?
On a le Sénat. On a le Sénat. Allez,
ce que vous appelez trop loin,
c'est quoi? On a le Sénat, on a pratiquement les institutions quand même se mettent en place.
Mais ça change quoi? Ce que vous avez fait, si c'est mauvais, vous êtes en train de construire une maison, la fondation est mauvaise. Mais tôt ou tard, la maison va s'écrouler. Notre fondation, ceux qui sont en train, sont en train d'appeler 5e République, mais sa fondation est bancale, totalement bancale. Et ils savent que tôt ou tard, la maison va s'écrouler. Il y a tellement d'incohérences dans ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes. Et ils s'en rendent compte chaque jour, un peu plus, qu'il y a trop d'incohérences.
Comment il y a des incohérences, mais ils avancent?
Non, c'est-à-dire que tu fais comme si tu ne connais pas comment fonctionne une dictature. Une dictature fonctionne, il sait que bon, la difficulté est là, mais il contourne. Il ne le règle pas, la difficulté. Mais il contourne, il trouve des artifices pour contourner la difficulté. Mais tôt ou tard, la difficulté va le rattraper. C'est ça, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Parce que les institutions, tout ce qu'on a mis, institutions, machin, Sénat et tout ça. Le Sénat, nous, on l'a combattu depuis le début. On a été farouchement contre le Sénat. Ça fait longtemps, depuis que moi j'étais au car avec Agbo.
Mais pourquoi vous étiez contre?
Non, on est contre parce qu'on n'en a pas besoin. Dans un pays pauvre, il faut s'occuper des priorités. Dans un pays qui est pauvre, mais l'argent qu'on va engouffrer dans le Sénat... On peut l'utiliser pour construire un hôpital quelque part, on peut construire une école. Mais il y a des gens qu'on a ramenés, qui sont des vieux de la politique togolaise, mais on les a ramenés. Ils ont fait leur temps, ils ont profité de ce pays pendant des années. Mais au lieu de les laisser là où ils sont, et peut-être à la rigueur, peut-être de s'occuper des jeunes, on les a tous ramenés. Et ils vont, on va leur servir encore des émoluments et tout ça. Lorsque on a commencé la politique de la décentralisation, ben, les tests de départ, ou je ne dirais pas de départ, les tests disent que on doit affecter un minimum de ressources aux communes pour qu'elles puissent exister. Mais regardez sur les 117 communes que nous avons aujourd'hui, quelles sont effectivement les communes qui sont viables, qui existent véritablement? Il n'y en a pas beaucoup. Mais lorsque vous demandez au gouvernement, pourquoi vous n'aidez pas les communes à exister véritablement? Parce que c'est la base de notre décentralisation. Ils vous disent que c'est des problèmes de moyens. Alors, au moment où vous dites que vous n'avez pas les moyens pour s'occuper des communes et les rendre viables, vous créez une nouvelle institution qui demande également de l'argent. Alors, ce n'est pas marcher sur la tête, ça. Ce n'est pas une manière de marcher sur la tête ou de se foutre des populations. Parce qu'ils font ce qui leur plaît et ils ne s'occupent pas de nous. C'est ça, en réalité, le problème du Togo aujourd'hui. Le gouvernement dit, moi j'avance, le train avance, la caravane, bon, ok. Peu importe. Mais est-ce que c'est la mission qu'ils ont reçue des populations? Ils ont reçu une mission de faire le bonheur des populations, de s'occuper de leurs problèmes au quotidien. Mais cette responsabilité, ça eux qui l'ont, pas nous. Alors, si les gens sont malheureux aujourd'hui, interrogez tout le monde. Quand on vous parle de ceux qui sont les plus malheureux aujourd'hui dans le monde, on vous citera le Togo en bonne place. Les gens sont effectivement malheureux au Togo. Les gens souffrent. On souffre vraiment. Alors, si on souffre comme ça et que le gouvernement n'en a que cure, ne sait même pas ce qui se passe, mais ça devient assez compliqué.
Au même moment qu'on souffre, comme vous le dites, mais on est bien noté par des institutions internationales.
Mais pourquoi? Vous faites comme si vous ne savez pas comment fonctionnent ces institutions internationales. Les gens du temps de temps machin, on a vu des chefs d'État aller arranger une décoration ici et là et puis revenir vous balancer la figure que on m'a reconnu comme tal. Donc tout ça là, ça ne veut rien dire. Véritablement, ça ne veut rien dire, ça.
Ah, mais maître, est-ce que vous avez l'impression que du jour au lendemain, le pouvoir en place fera marche arrière par rapport aux machines arrière par rapport à cette nouvelle constitution?
Non, mais c'est-à-dire que ça dépend des Togolais. Ça dépend de nous tous. Vous croyez que quoi? C'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui et que la contestation que nous avons commencé à mettre en place et que demain, on voit demain à une manifestation dans la rue 1 million de Togolais ou éparpillés sur l'étendue du territoire. Un groupe aussi fort ici dit, ça là, on ne peut plus, on n'en peut plus. Il faut reculer, il faut faire autre chose. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si les Togolais, 1 million, 2 millions de Togolais, 3 millions de Togolais disent non, ça suffit comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de reculer. Pourquoi ils craignent tant les rassemblements? Parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas parce qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues pour que les gens ne s'intéressent pas à ce que nous faisons. Et parce qu'ils craignent qu'effectivement, lorsque la contestation va gagner un peu plus grand nombre de citoyens, ben, ils sont obligés de s'arrêter ou de reculer. Et c'est ce que nous demandons aux Togolais aujourd'hui. De faire en sorte qu'ils puissent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, elle n'est pas normal de s'arrêter, de reculer, et de penser à autre chose. Je dis, nous sommes tous des Togolais. Eux qui nous gouvernent, ils sont des Togolais. Nous sommes des Togolais. Nous n'avons que notre patrie, le Togo. Et rien ne se passera demain pour qu'on dise, oui, vous là, qui avez dirigé le pays, on vous met dans un sac, on va aller vous jeter dans la mer. Ils seront dans le pays. Et nous, nous ne sommes pas en train de faire quelque chose pour ce qu'ils appellent, on appelle souvent la chasse aux sorciers et tout ça. Mais il est temps qu'ils s'arrêtent quand même. Il est temps. Nous n'avons pas envie de déclarer la guerre à qui que ce soit. Mais lorsque la chose ne va pas, il faut qu'on ait le courage de dire ça ne va pas. Parmi eux-mêmes, aujourd'hui, au sein de l'UNI, il y a beaucoup qui disent que cette affaire-là, ça ne va pas. Vous parlez avec eux individuellement. À l'UNI, ils vous diront que non, ce qu'on est en train de faire dans ce pays-là, ça ne va pas.
Ils n'ont pas assez de courage.
Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils ne peuvent pas avoir le courage.
Vous avez discuté avec certains?
Mais bien sûr, moi j'en discute beaucoup avec beaucoup d'entre eux. Et ils se reconnaissent. Et ils reconnaissent que ce n'est pas bien. Mais le chef de l'État aujourd'hui, il roule en solo. Il roule en solo.
Comment il roule en solo?
Toutes les décisions, il les prend. C'est-à-dire que s'il y a des gens autour de lui qui sont honnêtes et sincères...
Il y a des gens sur lesquels il s'appuie, la preuve.
Je dis, s'il y a des gens honnêtes et sincères qui sont préoccupés par le devenir de ce pays et qui peuvent lui parler pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire, il l'aurait déjà fait et il l'aurait réussi. Et s'il ne l'a pas réussi, ça veut dire que non seulement ils ne l'ont pas fait, ou bien ils l'ont mal fait, ou ils ne veulent pas le faire.
Maître, intéressons-nous maintenant à votre manifestation alors du dimanche. Comment ça va se dérouler?
Oui, mais écoutez, je voudrais corriger d'abord quelque chose avant de donner, de dire ce que j'ai à dire. Vous avez parlé de manifestation à Kassimé. Non, si vous avez.
Non, ça, c'est la DMP plutôt qui organise là. La DMP organise justement une manifestation à Kassimé, enfin un meeting.
Vous, c'est à la plage.
À la plage.
Justement.
Alors, nous avons fait le premier meeting le 23 mars à Kassimé, avec toute la mobilisation que nous avons connue. Et pour une deuxième manifestation pour le 27 avril, où on va parler de l'indépendance, on va des acquis de l'indépendance, et on va parler de l'avenir, et venir chuter nécessairement sur la situation actuelle, nous avons dit que nous retournons encore une deuxième fois à Kassimé. Mais au moment où nous allons commencer les préparatifs, nous avons été informés que, oui, il y a des jeunes dans le quartier qui résistent, qui disent non, qu'ils ont une autorisation.
C'était comme pour la première manifestation.
Oui, la première a failli également connaître ce problème-là, mais finalement, c'est là la dernière fois
que ce sont résistés. Des jeunes déjà dans le quartier qui résistent.
Qui projettent...
Oui, qui ont dit qu'ils ont projeté des manifestations jusqu'à la fin, jusqu'au 27 avril. Et qu'ils vont organiser des tournois de football, ils vont faire ceci, etc. Mais on a tenté de dire, mais ce que nous faisons, c'est pour vous également. Pourquoi vous allez résister à cet avis? Ils disent non. Et ils ont écrit, et ils ont l'autorisation du ministre. Mais nous disons, nous avons écrit également au ministre. Alors, quand le people a commencé, nous avons dit, ce que ces jeunes-là sont en train de faire, ils sont de manipuler de quelque part. Et si on ne fait pas attention, le 27, là, on va aller là-bas. Mais ils vont nous perturber sérieusement. Mmh. Dans un premier temps, on a voulu reculer pour aller un peu plus loin, à Kassimé là-bas. Mais on a dit, mais si on est là-bas, eux aussi, ils sont en train de jouer. Ceux qui les manipulent vont mettre de la musique. Ça va vous perturber, vous ne comprendrez rien. Mmh. Donc, pas sagesse. Véritablement, pas sagesse. Nous avons dit, nous allons déplacer le lieu du meeting. Et nous avons choisi finalement d'aller à la plage. Et en face du rond-point, c'est-à-dire que le palais des gouverneurs, là. Mmh. Juste en face.
Après l'hôtel Le Bénin.
Voilà, vous prenez la rue de Kondjoubia-Kopé, vous tombez directement sur le lieu du meeting. Et on a écrit au ministre pour dire, pour telle raison, on lui a dit que voilà, on a changé de lieu. S'il voulait réellement intervenir dans cette affaire, il aurait pu dire, oui, bah, écoutez, on va voir ces jeunes-là, parce que vous êtes politique et tout ça, organisation, si c'est seulement les matchs de football, on peut... Mais ils n'ont rien dit. On lui a écrit, ça fait plus d'une semaine, mais ils n'ont rien dit. Et c'est seulement hier, à 19h. Mmh. Moi, je n'ai même pas reçu la lettre. Ils sont allés balancer la lettre la nuit à un collaborateur de Jean-Pierre Fabre, que, notre meeting là, qu'on veut faire à la plage, ça pose des problèmes. Quel problème ça pose?
Parce qu'il y a l'ancien palais de
la présence. Il dit non, que le code, la loi sur les manifestations dit que on ne peut pas faire une manifestation qui prend des routes internationales. Et que la route qui quitte à Plaou pour aller vers Manchester, c'est une route internationale, et que l'endroit où on veut faire le meeting est proche d'une route internationale, donc par conséquent, ça pose problème. Et deuxièmement, que 27 avril, c'est une journée spéciale, et que les forces de sécurité vont être mobilisées pour assurer la sécurité des manifestations, donc par conséquent, pour ces deux raisons, nous, on peut pas. Ils nous demandent de différer le meeting et de trouver un autre endroit. Voilà la lettre qu'on a reçue hier nuit.
Et finalement, vous avez trouvé un autre endroit?
Non, mais c'est-à-dire que si vous écoutez ce que j'ai dit, c'est deux raisons qu'ils ont évoquées. Ils n'ont pas évoqué seulement le problème de l'endroit, ils l'ont évoqué. Mais ils ont parlé également de la sécurité de la manifestation. Qu'ils n'ont pas assez d'agents de sécurité pour... et ils nous demandent non seulement de déplacer l'endroit du meeting, mais également de différer de changer la date.
La date, voilà.
Voilà. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, nous sommes en train de réfléchir. Mais il y a d'abord trois manifestations qu'on a voulu avant d'aller le dimanche à la plage. Nous avons un culte musulman qui va avoir lieu tout à l'heure à 13h à Goué.
Tout à fait.
On ira. On demande à nos militants de se mobiliser pour venir nombreux à ce culte musulman-là. Nous avons un culte catholique, une messe catholique demain à la cathédrale à 10h. Nous leur demandons également de venir nombreux. Et puis le dimanche à 9h, nous sommes chez les presbytériens à Nyekonakwe, ici dans leur grand temple là. Et ça, c'est les trois manifestations religieuses qu'on a voulu organiser avant d'aller à la France. D'accord. Mais nous, quoi qu'il arrive, ces trois manifestations, nous allons les tenir.
D'accord.
Nous irons à ces cultes-là. Et mais par rapport à dimanche, les responsables sont en train de s'organiser.
D'accord.
Et on vous dira.
Ok, maître, nous avons passé pratiquement une heure de temps, 60 minutes. Ça passe vite, c'est vrai. C'est vrai, vos compatriotes vous ont écouté pendant les 60 minutes. Nous allons maintenant les écouter aussi. Peut-être qu'ils ont des questions à vous poser.
Parfait.
Parce que c'est le principe à l'heure de l'émission. Ils ont des questions. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission et nous sommes toujours avec Maître Paul Dodia-Pévon, le président des FDR, le parti FDR. Maître, je vais vous prier alors de porter le casque justement pour écouter vos compatriotes qui vont certainement vous poser des questions. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien. Bonjour, maître Pivot.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien, par la grâce de Dieu.
Merci.
Bon, maître,
oui?
J'ai deux questions.
Oui?
Est-ce que le président de la République de la 5e République peut redevenir président des conseils? C'est-à-dire, on nomme un président de la République sans pouvoir. Bon, après ces deux mandats, il peut redevenir président des conseils? Bon, moi, la semaine passée, j'ai écrit président de la République de demander à l'Assemblée de nous proposer, de nous former une tenue technique. Est-ce que ça peut aider à faire la situation et avoir des élections propres? Merci, bonjour. Je n'ai pas encore eu la réponse quand même.
Merci.
Il n'est pas là.
Oui, mais merci, M. Gado, pour votre intervention. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour. Oui. Pélé, bonjour.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Maître, bonjour.
Bonjour, M. Pelé, comment allez-vous?
Très bien. Du courage toujours.
Merci.
On vous apprécie.
Merci beaucoup.
Bon, pour le meeting, je pense que selon le régime RPT, il pose toujours sa stratégie. Et bon, nous avons appris ce matin sur Victoire FM, chez le président de l'ANP, Jean-Pierre Fabre, c'est comme ce meeting, ceux qui vont participer, c'est conditionné. Comme la priorité, c'est de demander le meilleur coup pas. Parce qu'il y a des partis politiques qui ont causé des dégâts, qui ont insulté. Alors, donc, d'après sa déclaration, c'est un peu conditionné. Est-ce qu'on peut commettre les partis politiques qui vont venir demander pardon avant ce meeting? Deuxième préoccupation, je pense que pourquoi cette question? Parce que en 2015, vous étiez le président du CAR et vous avez demandé le boycott d'une manière à voter contre CAR 2015 de Jean-Pierre Fabre d'alors et Mme Adiamagbo. Alors, je pense que par cette déclaration de Mme Isabelle Amegali, qui a dit que nous allons combattre le cas de Maître Apévo comme le RPT venir, est-ce que vous, à votre niveau, depuis lors, aujourd'hui, ce matin, c'est comme votre parti est le parti sérieux avec l'ANC? Est-ce que vous avez demandé pardon à l'ANC? M. Jean-Pierre Fabre, merci.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Bonjour, Canal FM. Moi, personnellement, je parlerai de l'indépendance le jour où je mangerai trois fois par jour au désir de mes choix. Le jour où je m'inquiéterai pas quand j'irai me faire soigner même sans argent, et également le jour j'aurai un travail à la limite de mes compétences, sinon le reste n'est que sentiment à ne jamais se réveiller de sommeil de retard. Celui qui est indépendant s'en passe des aides et décide dignement la ligne politique du pays. C'est Ibrahim qui nous écrit. 90 86 35 35. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Très bien, à la Togolaise.
Oui, votre nom c'est?
C'est Bozambo.
Ah, Bozambo.
Oui.
Allez-y.
Je dis félicitations à Maître Apezon.
Merci beaucoup.
Et il a tout expliqué au peuple togolais, oui. Qui avait des oreilles pour écouter. L'indépendance, ça appartient à nous tous. C'est l'indépendance de 92 que moi j'ai vu, que tous les Togolais, ils ont vu leur parti, bien leur corps, dans le 27 avril 92. D'autres là, après ça, l'indépendance se fait en catimini. Donc, eux, d'autres personnes veulent fêter ça à la plage. Ils ont dit que quelqu'un veut prendre là-bas pour organiser quelque chose, pour bloquer. Où allons-nous? Où allons-nous? Monsieur Apezon. Il faut aller un peu derrière et recouper tous les opposants pour faire face à ce régime. Sinon, si une seule personne ne peut pas aller, et les peuples seront derrière vous. Oui. Si vous allez seul, ça ne peut pas aller.
Okay.
Personne ne veut pas aller brusquement, avec violence. On veut aller avec la paix, avec sincérité. Et tout le monde comprend, le Togo appartient à nous tous. Le Togo appartient pas à une seule famille. Appartient à nous tous.
Merci beaucoup, Bozambo. Merci beaucoup, Bozambo. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Bonjour, Canal FM. J'aimerais dire merci à Maître Dodi pour ses réflexions. Et s'il avait pris part à cette invitation de dernier moment, c'est comme manger à une table où le respect n'est pas servi. C'est André qui nous écrit depuis Dakar. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, Moussani Tato.
Oui, salut, votre nom c'est...
Salut, Maître Dodi Apezon.
Merci,
merci. Merci pour moi, je vois...
Oui, votre nom c'est...
Je ne vais jamais régler le problème du Togo. Et que moi, les conseils que moi, je vais leur donner, ils n'ont qu'à aller chercher des moyens à l'extérieur pour déstabiliser ce pays, non.
Merci beaucoup. Ici, je pense quand même que nous sommes en train de faire une émission sérieuse, et quand vous intervenez avec également des mots très courtois, c'est très important, hein, c'est très important. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, et c'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame ici.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous tous. C'est bon. Depuis 63, on ne fera jamais de le dire que De Gaulle a installé le régime. 5 ans. 68, le mandat devrait être fini. On a eu 90, jusqu'à la tragédie de 2005. APG, qui donne droit au régime, sexagénaire-là, de rester jusqu'en 2015 pour faire les réformes démocratiques, pour qu'on évolue. Rien. Dès que ça arrive à échéance, on change les donnes. On tracicote tout. Et le chien aboie, la caravane passe. Et monter dans le train, on nous gouverne avec ces phrases-là. Montrer dans le train, sinon rester à la gare, tout ça, mais on est parti. Tout ça, là, on va où? Mais, attends, de la retrahison sur retrahison, jusqu'à ce qu'on en arrive là. Vous êtes un homme de droit, un juriste, voilà. Et comment se fait-il que vous n'arrêtez jamais ça en portant plainte pour retrahison? Pour qu'on ait la paix, il n'y a pas besoin de se faire violenter dans les manies, dans les machins. il faut porter plainte quoi? On a une constitution noble qui nous évite tout ça là. Merci.
Merci, madame Essi, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Pélé qui revient.
Oui, oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé.
Bon, maître, oui. Je pense que au lendemain des élections législatives et régionales de 2024, le peuple togolais affamé a voté pour 5 députés. Et nous attendions à l'époque tous ces députés-là d'être ensemble pour voir s'il faut siéger ou ne pas siéger. Maintenant, la question que nous devons poser devant Dieu, devant les hommes, qui a appelé qui et qui n'a pas accepté, et pourquoi ce n'est pas possible à cette opportunité que les 5 députés que le peuple affamé a choisi ne peuvent pas être ensemble pour décider de ne pas siéger ou bien de siéger. Qui a dit qui et qui a fait quoi et qui n'a pas appelé qui et qui en a fait message et qui le a refusé, etc., etc. Merci.
D'accord, merci Pélé, 90-86-35-35-91-36-63-75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Et là, nous allons donner la parole à Maître pour se prononcer sur les questions. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Monsieur Mauto.
Ah, monsieur Mauto. Allez-y.
Bonjour, Maître.
Oui, bonjour, monsieur Mauto.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Bon. Si vous pouvez animer un débat contradictoire entre la mouvance et vous, l'opposition, c'est vous qui ne voulez pas bien tenir, les gens qui ne font pas bien leur travail. Alors, sur le problème de concession, là, les jurys qui sont sur le pouvoir, ils viennent sur le plateau, ils donnent leur argument. Vous aussi, si vous venez, vous faites votre part. Mais on ne comprend rien. Parce que vous êtes un homme de droit. Vous aussi, ils se disent qu'ils connaissent le droit. On veut savoir la vérité. Bon, déjà pour préoccupation, il y a certains Togolais, pas qu'on dise, oh, eux aussi, ils soutiennent le pouvoir. Mais si on voit leur constat, parmi eux, leur constat est misérable. Moi, je ne comprends pas. Vous continuez de sensibiliser cette population. Comment vous allez faire pour qu'ils comprennent la situation? Parce que nous sommes tous dans la misère en Togo. Vous voyez, dans leur milieu, même qui soutient le pouvoir, il y a la misère là-bas, mais ils continuent de soutenir ce pouvoir-là. Je ne comprends pas. Merci,
Monsieur Mauto, pour votre intervention. Merci à tous pour vos diverses interventions au Club de la Presse. Nous allons maintenant donner la parole à Maître pour répondre à ces différentes questions qui lui sont adressées. Maître, c'est vrai, il y a Monsieur Gado qui a appelé premièrement et Monsieur Gado posait la question concernant surtout le fond lors de cette nouvelle constitution. Il demande si du jour au lendemain le président de la République peut devenir alors le président du Conseil des ministres.
Oui, j'ai suivi sa question, mais pour qu'il devienne le président de la République, devienne président du Conseil, il faut qu'il devienne président d'un parti politique qui gagne les élections à la majorité. C'est la condition première d'abord. Il faut que lui, il soit à la tête d'un parti politique qui ait la majorité à l'issue d'un vote aux élections législatives. S'il n'est pas président d'un parti politique qui a gagné les élections, ben il ne peut jamais devenir président. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est que le président de la République et le président du Conseil, surtout le président du Conseil, qui ne veut pas être élu, qui n'est soumis à aucun suffrage. Lui ne participe à aucune élection. Il est à la maison, les gens vont aller voter, et lui prend le pouvoir. C'est ça. Le traficotage dont je suis en train de parler, parce que ce qu'ils ont fait là, c'est ça que les incongruités de ça. Quelqu'un qui veut gouverner avec tous les pouvoirs qu'on lui donne là, lui ne va participer à aucune élection. Il est à la maison, les autres vont se débrouiller, vont aller mettre la main dans le cambouis. Lui, il est à la maison, on lui dit, mais vous nous gouvernez et indéfiniment. C'est ça. Donc, la première condition, c'est qu'il faut qu'il soit là. Il remplace quelqu'un à la tête de l'Union ou d'un autre parti pour gagner les élections. En ce moment-là, il deviendra. Mais si ce n'est pas ça, conformément à cette constitution-là, il ne le deviendra jamais.
Mais maître, qu'est-ce que vous pensez alors d'une série technique?
Oh, vous racontez. Vous parlez de série technique. Vous avez déjà vu quelqu'un. En votre année concernée, vous avez vu un Togolais qui a été nommé par le président de la République et qui a fait le contraire de ce qu'il lui demande de faire. Vous avez déjà vu ça au Togo? Lorsque vous parlez de cette... Moi, ça me fait sourire. Nous n'avons pas des gens capables pour résister au pouvoir. Mais il n'y en a pas. Magistrats, tout ce que vous connaissez. Regardez notre histoire depuis les SMI jusqu'au à la Cour constitutionnelle. Qui un jour a résisté au pouvoir pour dire non, je ne fais pas. Alors allez trouver des Togolais pour dire mais vous êtes dans une certaine technique. Ce n'est pas ça le problème. Quelle est la capacité de ces gens-là à pouvoir dire non lorsqu'on leur demande de faire quelque chose qui n'est pas normal? Mais c'est ça en réalité le problème qu'on doit régler avant de nous parler tout le temps de semi technique. On n'a pas déjà capable de prendre les responsabilités. Le moment venu, ils vont dire ah oui, moi j'ai peur, moi j'ai des enfants, moi j'ai ceci. Alors tu as des enfants et tout machin, tu acceptes une responsabilité et tu la fuis en même temps. Si on vit comme ça avec cette mentalité, la CENI technique n'apportera absolument rien du tout. Il y a des gens que je connais, moi je prends toujours l'exemple du Ghana. Au moment où Rollins était là, il y avait une CENI qui a été nommée. Mais au moment où il a perdu les élections, mais c'est les personnes qui l'ont nommé dans la CENI là qui lui ont dit « Vous avez perdu les élections ». Ils ont eu le courage de lui dire que vous avez perdu les élections. Vous avez vu ça au Togo, quelqu'un qui va avoir le courage d'aller leur dire qu'ils ont perdu les élections? Alors arrêtez de nous parler de cette vie technique. C'est ça.
Maître, est-ce que votre manifestation ou le meeting organisé serait-il, ou serait-il, quand on parle alors de meeting, serait-il conditionné par le fait qu'on doit demander d'abord pardon? C'est Pélé qui pose la question.
Oui, mais je l'ai écouté, mais je n'ai pas tellement compris. Le pardon va venir qui je ne sais pas, est-ce qu'on va aller demander pardon au parti au pouvoir ou au parti
il parle de la participation des autres partis de l'opposition, c'est comme
oui, je comprends. Ah non, c'est-à-dire que cette question-là, j'avoue que ça rejoint peut-être une autre question. Que celui qui a parlé du... Oui, c'est toujours lui.
Oui, c'est toujours lui.
On a demandé pardon. Non, écoutez. Ça veut dire que lorsqu'on veut évoluer sur le terrain politique, il y a des choses qui arrivent. Hein. Entre politiciens, il y a toujours des choses qui arrivent. Mais il y a un moment donné qu'on doit pouvoir transcender pour pouvoir avancer. Il y a des positions qu'on prend à un moment donné qui peut peut-être frustrer, qui peut peut-être blesser, mais si on veut, on a la volonté de faire quelque chose pour la nation, il y a des moments où on ferme les yeux sur les blessures et tout ça, on avance. Mais il y a également des situations qui se présentent où, par humilité, moi, j'ai dans une de mes émissions déjà, publiquement, j'ai dit que au moment où les élections de 2020 là, ce qui s'est entraîné, les positions qu'on a prises, qu'on a été parfois incomprises et tout, mais j'ai dit, à un moment donné, les propos que nous avons tenus, si ça a blessé quelqu'un, on a fait du tort à quelqu'un, mais on demande pardon pour qu'on puisse avancer. Je l'ai dit dans une de mes déclarations publiques. Et quand la chose arrive et que certains se sentent blessés, mais il y a une manière simple de dire entre nous, bon, écoutez, à ce moment-là, oui, j'ai dit ceci, j'ai posé tel acte, mais écoutez, passons l'éponge et avançons pour le bien de notre nation. Si on a envie de réellement de faire des choses, nous avons mille une manière de pouvoir passer ces problèmes-là en fait et profit et pouvoir avancer. Moi,
Maître, pour le fait que vous n'êtes pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous ne siégez pas, et pouvez-vous savoir qui a décidé, qui a pris cette décision que finalement vous avez aussi vous êtes aujourd'hui, vous avez boycotté quand même cette Assemblée?
Oui, mais c'est-à-dire que je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais nous aurions dû, les cinq qui ont été élus là, nous aurions dû nous retrouver, prendre la décision d'aller ou de ne pas aller. C'est ce que des personnes censées auraient dû faire. Mais nous avons tenté. Des rencontres ont eu lieu, on s'est rencontrés entre nous, mais au cours de ces rencontres, on a compris que les positions individuellement étaient figées. Bon, on ne pouvait rien faire pour les changer. Et donc finalement, c'est ce qui nous a entraîné dans cette situation-là, où ceux qui ont pris la décision d'aller Bon, et ceux qui n'ont pas pris la décision de ne pas y aller, bon, se sont retrouvés dans cette configuration. Non, nous, on n'a pas jeté la pierre à ceux qui ont décidé d'y aller. C'est leur position. Mais on dit, celle-là, elle est mauvaise. Mais quand les choses se sont compliquées, ils sont revenus nous voir pour dire, ah, on est allé là-bas, on veut nous mettre sous l'égide de la 5e République. C'est ce qu'on vous disait. Maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, peut-être qu'ils ont déjà pris la décision d'y aller, que ça les a amenés à ne pas changer. Parce que nous savions qu'en allant dans cette assemblée-là, on n'allait rien changer. Voilà, voilà, c'est pour ça que...
Oui, maître, une dernière question sur notre page WhatsApp. Il y a Emmanuel qui nous écoute depuis Roger Copé et qui demande à savoir la 4e République n'avait-elle pas été prévue par le Sénat?
Mais bien sûr! Depuis le début, qui a prévu? La 4e République a été prévue par le Sénat.
Enfin, le Sénat, oui, le Sénat a été prévu par cette République, cette 4e République.
Oui, mais c'est-à-dire que nous avons eu une première constitution en 92 qui ne nous a pas parlé de cette affaire de Sénat. Alors, maintenant, quand ils ont modifié en parlant de Sénat, mais qui a été d'accord avec eux? C'est leur assemblée qui a décidé que désormais, il faut introduire une deuxième chambre, qui est le Sénat. Mais depuis qu'au moment où on a adopté, l'Assemblée a adopté ce principe, nous l'avons toujours combattu. Que ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon parce que ça va nous entraîner à dépenser inutilement. Parce que ça n'apportera pas grand-chose. Bon, nous sommes là aujourd'hui. Si l'expérience du Sénat se poursuit dans 5 ans, dans 6 ans, ben, on viendra faire le bilan pour savoir réellement qu'est-ce que ça a apporté aux Togolais. D'accord. Bien au contraire.
D'accord. Maître, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Oui, bon, dommage que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais bon, ceux qui... à qui je n'ai pas pu répondre. Celui qui a dit que ben, il ne parlera de l'indépendance que lorsqu'il peut manger à sa faim et se faire soigner, il a totalement raison. Nous sommes en train de penser, de fêter 65 ans d'indépendance. Alors, lorsque vous prenez les 65 ans où le pays est devenu indépendant jusqu'à aujourd'hui, en termes de bilan, si on nous interroge chacun individuellement aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un Togolais aura la fierté. En dehors de ceux qui dirigent, et qui ont tout ce qu'ils ont comme avantage et tout ça, je ne parle pas d'eux. Le citoyen lambda, vous l'interrogez aujourd'hui sur 105 ans d'indépendance, il vous dira que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il est temps maintenant que ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent que les choses changent, on puisse trouver la solution pour notre pays. On a besoin que ce pays se retrouve pour que nous puissions ensemble nous occuper de son développement.
D'accord. Merci beaucoup, maître Paul de Diapévon, et merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique, les FDR. Merci d'être passé dans cette émission. Thierry Afanoukou, merci aussi d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoutia était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne fête à l'heure d'indépendance.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.